Bon, j'espère que vous avez encore un peu de patience. Alors là, on va passer complètement à un autre registre. D'autant que Ariane a vraiment brossé à peu près la paracha, alors que moi, je vais rester sur un verset. Mais sur ce verset, il y a beaucoup à dire. Alors, ceux qui me connaissent savent que ma spécialité, c'est d'essayer de montrer l'héritage absolument colossal des chrétiens, de ce qu'ils ont reçu du judaïsme. C'est un héritage. C'est très important, ce mot. Parce que quand on hérite, on est dans la gratitude. On a tout reçu gratuitement. C'est fondamental. Et ça, on n'en est pas encore assez... On l'a pas assez touché du doigt. Donc, c'est ce que je vais essayer de vous montrer ce soir. Alors, je vais juste vous parler du moment où Jacob, donc, il part... Il fait ce songe et il arrive à Haran, comme on vient de dire, près du puits. Et qui trouve-t-il près du puits? Il trouve trois bergers avec probablement les trois troupeaux. Et voilà, il sait qu'il est plus ou moins à Haran, mais il se renseigne. Est-ce que vous connaissez Laban? Est-ce que voilà, je suis en voyage et je dois trouver Laban parce que c'est là que je suis envoyé. Et donc, les bergers lui répondent « Oui, oui, nous connaissons Laban, et comment il va, etc. » Donc, il y a une petite conversation qui se met en route. Et on voit tout de suite le problème. Pourquoi ils sont en plein milieu du jour, assis à côté, pas très loin du puits, et qu'ils attendent? Et c'est là où on voit que Jacob, il a sûrement été aussi un jour ou l'autre berger, parce qu'il dit « Mais attendez, au milieu du jour, on n'est pas là auprès du puits. » On fait paître les moutons, et donc il faut absolument que vous alliez paître les moutons, ça ne va pas du tout d'être resté là près du puits à attendre. Et les bergers répondent, mais nous attendons le quatrième berger parce qu'on ne peut pas soulever cette pierre. D'un air de dire, il faut au moins être quatre gros costauds pour soulever la pierre. Et à ce moment-là, le texte dit, « Ode nous medaber imam, v'chachel ba'a imatson, asher leavia ki roa » Tandis qu'il continue à parler avec eux, Rachel arrive avec le troupeau de son père, car elle était bergère. C'est la seule fois dans la Bible qu'on dit qu'une femme est bergère. Et vous voyez ce que ça résonne, berger. C'est pas n'importe qui, quoi. Je vous passe les détails pourquoi, finalement, elle est bergère et que tous les serviteurs de son père, n'ont pas fait bien leur travail et donc elle a repris. Bon, peu importe, mais en tout cas, c'est quelqu'un, Rachel. Et donc, au moment même où ils sont en train de parler, elle arrive. Et à ce moment-là, on imagine, hein, Jacob détourne le regard et voit, et voilà, et comme a dit Ariane, coup de foudre. Bon, très bien. Et c'est sa cousine, quand même. Et il y a une espèce de force qui arrive en lui. Il s'approche du puits, pouf, et il soulève la pierre. Et le Midrash dit, comme d'un goulot de bouteille, pouf, comme de rien, quoi. Alors évidemment, stupéfaction des bergers qui sont là. Avant d'entrer dans cet événement spectaculaire de manière un peu plus précise, je voudrais juste noter une petite chose, c'est que nous avons un exégète contemporain qui s'appelle Robert Alter, qui a beaucoup travaillé sur ces questions de cohérence de la Bible et qui parle de ces rencontres entre un homme et une femme auprès du puits comme des scènes types. Des scènes types. Et il y en a trois majeures, magistrales, dans la Bible. Et qu'est-ce que montrent ces trois épisodes? C'est la rencontre entre un homme et une femme que l'on a déjà perçue avec Rebecca au chapitre 24, donc Rebecca la mère, et puis qu'on a là avec Jacob et qu'on retrouve avec Moïse quand il rencontre les sept filles de Jéthro au début du livre de l'Exode. Bien, vous n'allez pas me croire, mais après ce début du livre de l'Exode, et on est tout à fait au début de la Torah et tout à fait au début du Tanakh, il n'y a plus de rencontre entre un homme et une femme auprès d'un puits. Sauf pour les chrétiens, la Samaritaine. Merci. C'est incroyable quand même. Et donc je pense que ça c'est fondamental de bien comprendre pourquoi dans les évangiles, un évangéliste, et l'un parmi les plus juifs, va vouloir clôturer ce cycle des puits avec cet épisode extraordinaire du rencontre entre un homme et une femme auprès d'un puits. Alors je vais en discuter longuement. Le Midrash va dire, Genèse Rabba 68.3, Certains vont à leur promise, pour d'autres, c'est elle qui vient à eux. Isaac, sa promise vient à lui. Rebecca leva les yeux, elle vit Isaac et descendit de son chameau. Jacob, lui, vint à sa promise. Vayetse, il sortit. Il est sorti, il a fait tout ce voyage. Continuation du Midrash. Qu'est-ce que fait Jacob ? Il imita le chemin des pères. Trois hommes trouvèrent leur compagne près d'un puits, Isaac, Jacob et Moïse. Ah ! Donc ça veut dire que le Midrash, il est bien d'avant Robert Alter, qui est du XXe siècle, il est encore il est encore vivant, quoi. Donc ça veut dire que c'est très ancien. Ah, ça fait longtemps qu'on sait qu'il y a une sorte de continuité, un cycle, ce qu'on appelle le cycle des puits aujourd'hui. Pour Isaac, il est écrit, Isaac était revenu du puits de la Haïrol. De plus, près de la source, c'est près de la source que Rebecca trouva Eliezer, envoyé par Abraham pour trouver une épouse pour Isaac. Et Jacob, il est dit, il regarda, et voici un puits dans les champs, et Moïse, il s'appuie près du puits. Donc, le Midrash, depuis très longtemps, même s'il a été écrit, mis par écrit après l'Évangile, mais on sait très bien qu'il y a toute une tradition orale bien plus ancienne, nous raconte cette histoire. Et le Zohar, qui ressaisit le Midrash de manière plus... qui explique encore de manière plus fine, fait dire à Jacob, « Lorsque mon père s'est marié, le serviteur qui avait été envoyé pour choisir l'épouse a trouvé sur son chemin un puits près duquel il rencontra l'épouse destinée à mon père. » Donc, Jacob, il imite quelque part. « Or, à l'endroit où je me trouve, il n'y a ni puits, ni source, ni eau. » C'était juste avant d'arriver à Haran. C'est pourquoi l'Écriture ajoute, Jacob continua son chemin et alla au pays qui était à l'Orient. C'est là qu'il trouva un puits près duquel il rencontra son épouse. Donc tant qu'il n'est pas près d'un puits, il sait qu'il ne peut pas rencontrer son épouse. Or, comme l'a très bien dit Ariane, c'était la deuxième raison pour laquelle il fallait qu'il aille dans la famille du frère de sa mère, pour trouver l'épouse. C'était son shlirut, c'était son tafkid, c'était nécessaire. Eh bien, l'héritage extraordinaire dans notre tradition qu'on ne connaît plus, parce qu'on a perdu le fil. Origène, 3e siècle, avant le Midrash, avant la mise par écrit du Midrash, en tout cas du Talmud, sûr. On trouve Rebecca près d'un puits. À son tour, Rebecca trouve Isaac près d'un puits. C'est là qu'elle aperçoit pour la première fois, c'est là qu'elle saute à bas de son chameau. C'est là qu'elle voit Isaac, que lui désigne le serviteur. Peut-être penses-tu que l'Écriture ne fait pas d'autres mentions de puits ? Or, Jacob, lui aussi, vient à un puits et trouve Rachel. C'est là que Rachel lui apparaît, saine pour les yeux et belle de visage. Et c'est encore près d'un puits que Moïse trouve Séphora, fille de Raguel. N'es-tu pas encore amené à comprendre que cela a été dit dans un sens spirituel ? Tu crois peut-être que c'est un hasard que les patriarches viennent toujours à des puits et que leur union se contracte au bord des eaux. Qui pense ainsi est un homme naturel et ne perçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Alors vous savez qu'il y a derrière, peut-être Origène ne le sait pas, mais nous on le sait, ce qu'on appelle le mérite des pères, hein, c'est-à-dire ce que fait l'un des grands, son fils va en hérite aussi et va le reproduire quelque part. Bon. Donc qu'est-ce que nous donnent ces deux traditions juives et chrétiennes ? Donc nous comme un héritage, mais c'est monumental, c'est gros comme le nez au niveau de la figure, c'est que ce soit chez nous ou chez nos frères juifs, Isaac, Jacob et Moïse rencontrent leur épouse au puits, c'est-à-dire Jacob et Moïse imitent leur ancêtre Isaac. Or, Jacob, comme l'a très bien terminé Ariane, est l'éponyme des 12 tribus d'Israël. Et nous savons que donc il va prendre le nom d'Israël. Et nous savons qu'il va donner naissance à 12 fils qui vont être les 12 tribus d'Israël. Or, Jésus est un type aussi, ou un antitype plutôt, puisque Jésus va choisir 12, et ce n'est pas par hasard, que la tradition de l'Église va l'appeler comme un nouvel Israël, ou un nouveau Jacob, et il va fonder l'Église. Donc vous sentez un certain parallèle. Et maintenant, essayons de comprendre la rencontre de la Samaritaine avec Jésus qui se fait précisément au puits de Jacob. Au puits de Jacob. Et si vous regardez bien cet épisode, trois fois le mot de Jacob avec une insistance mais impressionnante. Quoi. Pourquoi ? On n'arrête pas de nous répéter, c'est le puits de Jacob, et oui, puis c'était le puits de Jacob, et puis la Sabbatienne dit, ah, parce que t'es plus grand que Jacob. Tu serais plus grand que Jacob, la grande question. Donc, la Samaritaine, elle connaît. Même si on dit que les Samaritains ne connaissaient pas la tradition orale, je peux vous dire qu'elle, elle la connaît. Et donc, si les trois épisodes des scènes types aboutissent à un mariage humain, un mariage ordinaire, on se dit, mais la Samaritaine et Jésus, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas un mariage ordinaire. Mais dès qu'on voit ça, il y a une question qui se pose tout de suite, et je pense qu'ici, presque tout le monde connaît cet épisode de la Samaritaine. Il demande de l'eau, donc il y en a toujours un des deux dans ces rencontres qui demande de l'eau, hein, depuis le début, hein, depuis Rebecca. Et elle lui dit, mais t'as rien pour puiser, enfin bon, mais si tu avais su quelle eau j'allais te donner, ce serait de l'eau vive, etc. Et puis, elle regarde, non ? Et à un moment donné, on voit bien qu'elle ne comprend pas, que c'est pas de l'eau ordinaire, donc c'est ni un mariage ordinaire, ni de l'eau ordinaire que Jésus va lui donner. Donc on est sur un autre registre. Okay ? Et à ce moment-là, quand Jésus voit que... Il lui dit, va chercher ton mari. Mais pourquoi au milieu d'une conversation avec de l'eau, tout d'un coup, on a un mari qui se pointe là ? Et en fait, si vous regardez bien le texte, ça tombe comme un cheveu sur la soupe. Sauf que si on connaît l'ensemble, c'est déjà beaucoup moins comme un cheveu sur la soupe. Et donc, et la Samaritaine et Jésus savent tout ce grand périple depuis Rebecca, depuis Abraham, de l'importance du mari en train d'emmener une femme près du puits, quoi. Et justement, c'est à la question du mari que toute la relation et tout le discours et toute la conversation entre Jésus et la Samaritaine va basculer. Ça, tout va basculer à cause de ça. Est-ce qu'on retrouve, parce qu'il y a cette question de mari, quand même, une similitude entre tous ces épisodes grâce à la Samaritaine? Alors, qu'est-ce qu'on apprend de la réponse de la Samaritaine? Réponse très honnête, hein, quand Jésus lui dit « Oui, tu n'as pas de mari, d'accord, tu en as déjà eu 5, et le 6e n'est pas ton mari. Bon. » Donc, échec, il y a un échec des noces humaines. Il y a un échec. Et donc, l'Évangile va nous montrer un échec. Et qu'est-ce que veut nous montrer l'Évangile ? C'est que si cette Samaritaine n'a vécu que des échecs dans la relation conjugale la plus ordinaire que nous connaissons tous, c'est que Jésus veut lui montrer qu'il y aurait peut-être un autre type d'alliance. Voilà, exactement. Non pas pour dire qu'elle serait meilleure ou moins bonne, c'est pas ça. C'est juste pour dire, moi, en tant que fils de Dieu, j'ouvre une nouvelle voie. Et d'ailleurs, vous savez très bien qu'un homme est obligé de se marier dans la tradition juive et que le premier qui ne se marie pas, c'est Jésus. Donc déjà lui-même, dans son ministère, dans son humanité, je parle, hein, on est bien d'accord, dans son ministère, marque le fait, ok, le mariage, c'est béni, aucun souci. D'ailleurs, ça commence par les noces de Cana qui est archi béni. Mais moi, je vous montre qu'il y a aussi une autre voie. Donc les deux voies sont très bonnes, mais il y en a une, on n'y a même pas pensé avant, quoi. Vous voyez ? Donc il y a une sorte d'autre voie qui est proposée. Donc on peut se poser la question si justement ici, Jésus ne montre pas qu'il y a une autre maritalité, une autre alliance possible, éventuellement entre un homme et une femme. Et quand vous regardez encore un peu plus loin, plus précisément, est-ce que dans le mariage juif ordinaire, entre un homme et une femme, hein, qui est la chose la plus courante, est-ce qu'il y aurait la possibilité d'un lien mystique avec l'Éternel ? Le Midrash, que j'ai cité tout à l'heure, continue à propos de Jacob, qui vient imiter son père pour venir chercher une épouse auprès du puits, et fait dire à Jacob une chose incroyable. Jacob s'était dit... Je dois m'unir à la Shekhina parce que je veux choisir une épouse. Et la Shekhina, mais c'est quand même la présence divine. Comme si, déjà dans la tradition juive la plus ancienne, il y a une perception de quelque chose de divin dans la relation entre l'homme et la femme. Et d'ailleurs, il y a un autre midrash qui dit, c'est Dieu qui organise les épousailles. C'est Dieu qui se débrouille pour que l'un et l'autre se rencontrent et se trouvent. Parce que n'importe qui ne peut pas aller avec n'importe qui. Alors, il y a tout un midrash très amusant avec la matrone, mais je ne vais pas le dire, on pourrait éventuellement en parler. Et l'autre, une autre question aussi par rapport à cette question de mariage, c'est Moïse épouse Tsipora, il a deux enfants, et une fois qu'il a, voilà, que tout se passe bien, finalement, au moment où il monte au Sinaï, et après la grande révélation de Moïse au Sinaï, où Dieu lui parle bouche à bouche, PLP, Dieu lui demande de rester avec lui, et tandis qu'il va renvoyer tout le peuple dans ses tentes. Et certains, dans la tradition juive, comprennent qu'il vit, Moïse, même si c'est une exception, n'empêche qu'elle existe, une union avec la Shekhina, avec la présence divine, comme aucun prophète ne l'a jamais vécu en Israël. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même un petit fil, déjà dans la tradition juive, qui confirmerait le choix de Jésus. D'autant plus que tout l'évangile de Matthieu, particulièrement, va nous montrer que Jésus est un nouveau Moïse. Il imite aussi les pères, puisqu'il y a l'histoire des mages, je ne voudrais pas entrer dans les détails de la naissance de Jésus, c'est typique la naissance de Moïse dans le Midrash, quoi. On peut faire un parallèle pendant des heures. Bon. Donc c'est toujours ce thème du mérite des pères. Si j'ai encore un peu de temps, je voudrais pointer deux autres petites choses sur ces questions. Le puits et la source. Donc c'est très important aussi ça. Dans l'histoire de Rebecca, dans sa rencontre avec Eliezer, donc celui qui est mandaté, qui est un peu le remplaçant d'Isaac, on peut dire, on parle toujours du puits et de la source. Pas tout à fait pareil, un puits et une source. Un puits, c'est plutôt stagnant, la source, elle coule, elle est vivante. Dans l'épisode de Jacob, il n'y a pas l'idée de la source. Il n'y a que l'idée du puits, y compris parce que j'ai regardé le grec et l'hébreu dans les deux traditions, et y compris dans les textes de la Septante. Or, Saint Jean, dans l'évangile, au chapitre 4 de Saint Jean, il va appeler le point d'eau où Jésus s'arrête, source. Le premier mot, c'est source. Et ensuite, on aura le mot puits. Donc on a bien les deux mots très importants dans l'évangile de Jean. Donc dans le grec, évidemment. Et donc, pourquoi c'est important? Parce que tout de suite, on a en arrière-fond, pour ceux qui connaissent un peu, on a en arrière-fond Rebecca, Rachel, Eliezer, etc. Alors, on peut se dire, voilà, il y a un autre midrash qui va éventuellement éclairer cette rencontre. Comment Jacob soulève la pierre, donc comme on a dit, comme un bouchon d'une bouteille. Mais il y a d'autres traditions qui vont aller encore un peu plus loin. Notamment le Targoum du pseudo-Jonathan, Genèse 28-10. Cinq prodiges ont été opérés en faveur de Jacob au temps où il sortit de Beersheba. Alors je vous passe les trois premiers. Quatrième prodige, ce fut que le puits se mit à déborder et l'eau monta devant lui et il continua à déborder tout le temps qu'il fut à Haran. D'ailleurs, au point qu'on dit que quand il part, c'est parce qu'il n'y a plus le puits qui jaillit tout seul que Laban se rend compte qu'il est parti. Et donc, il roule la pierre comme de rien et il n'a même pas besoin de puiser parce que l'eau, elle monte comme un geyser. Et elle continue de monter pendant les 20 ans dans lesquels il est resté près de Laban. Et le Zohar précise, en voyant ce jaillissement de l'eau, Jacob comprit que Dieu lui avait envoyé sa future épouse. Jaillissement qui rappelle le jaillissement de l'eau depuis Abraham, parce qu'il y a eu aussi plusieurs jaillissements. Rebecca, c'est un jaillissement énorme. Elle met même pas sa cruche, que l'eau il vient dans sa cruche directement toute seule, etc., etc. Alors évidemment, la Samaritaine, elle connaît parfaitement, et Jésus connaît parfaitement. Et quand Jésus dit à la Samaritaine, c'est de la source d'eau vive que je vais te donner, moi. Donc vous voyez tout ce qu'il y a en arrière-fond. C'est pour ça que je dis, on a un héritage qui est colossal et qu'on ne connaît pas. Et c'est grave, parce qu'on ne peut pas être dans la gratitude. On ne peut pas dire, waouh, la tradition qui nous précède est immense. Ça, c'est fondamental pour moi. Si tu savais le don de Dieu et qui est celui qui te dit « donne-moi à boire », c'est toi qui l'aurais prié et il t'aurait donné de l'eau vive. Ben, cette eau vive, c'est... Mais le puits, il ne contient pas d'eau vive. C'est de l'eau stagnante. Donc c'est seulement de la source que c'est possible. Et quand elle lui dit « d'où l'as-tu donc cette eau vive ?»« Serais-tu plus grand que notre père Jacob ?» qui nous a donné ce puits et qui a bu lui-même ainsi à ses, que ses fils et ses bêtes. Quiconque boira de cette eau aura soif à nouveau, mais qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, parce que l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissant en vie éternelle. Donc vous sentez avec ce que je vous ai dit, déjà ça sonne autrement à l'oreille. Donc c'est un jaillissement d'une eau, et cette eau c'est pour la vie éternelle. Donc si l'eau matérielle est indispensable pour notre vie biologique, et s'il y avait le problème des trois bergers avec leurs moutons, c'est parce qu'il y avait une sorte de justice distributive de l'eau. Il fallait être les quatre là, non seulement pour sauver la pierre, mais pour voir que tout le monde avait bien son quota d'eau. Parce que l'eau est précieuse. Donc si l'eau est indispensable et qu'au bout de 3 jours, si on n'a pas d'eau, on sait très bien qu'on ne peut pas vivre. Vous imaginez la vie, quoi. Surtout dans ces pays, quoi. C'est... Eh bien, Jésus lui a proposé une eau pour une vie qui n'a pas de fin et que le judaïsme appelle le monde à venir et que lui appelle la vie éternelle. Et si celui qui boit de cette eau que Jésus lui donne devient une source d'eau en vie éternelle, ça signifie que lui-même, l'homme, Jésus bien évidemment, mais l'homme pourrait devenir ce puits et cette source qui jaillit en vie éternelle. Or, si on retourne chez les prophètes, qu'est-ce que c'est que l'eau vive ? C'est Dieu. Jérémie 2,13, « Ils m'ont abandonné, moi, la source d'eau vive, pour se creuser des citernes, et des citernes qui ne tiennent pas l'eau. » L'enseignement du sage, Proverbe 13,14, est source de vie pour éviter les pièges de la mort. Isaïe 58, « Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source jaillissante dont les eaux ne tarissent pas. » Donc vous sentez comment toutes ces traditions se synthétise dans l'épisode de la Samaritaine. Donc, quelle serait cette source d'eau qui jaillit en vie éternelle et qui jaillit du croyant lui-même ? Philon d'Alexandrie. Donc, on a des traces de tout ça. On a des traces de tout ça dans notre tradition, dans la tradition juive et dans la tradition chrétienne. Philon d'Alexandrie, donc on sait, c'est un juif hellénisé hein, qui a beaucoup plus influencé l'Église que le judaïsme, mais n'empêche, il ramasse quand même dans tous ses écrits, toute la tradition d'Israël, parce qu'il ne parle que de sa tradition. Il dit « Il est impossible de s'envoler en haut vers l'emplacement céleste de la vertu quand l'âme n'est pas tout entière remplie comme une amphore par la source divine que nous disons être la sagesse de la connaissance qui coule toujours. » Rebecca, dit Moïse, descendit à la source pour remplir sa jarre, et elle remonta. En effet, où doit-on normalement puiser ? Ah oui, on doit normalement puiser une pensée assoiffée de sagesse pour être comblé, ou sinon à la sagesse de Dieu qui est une source intarissable. Donc toutes ces traditions, on les a, quoi. Ambroise de Milan, écoutez lorsqu'il dit ce qu'est la source. Ils m'ont abandonné, moi, la source de vie. Voilà, donc Ambroise de Milan qui s'intéresse au puits de la Samaritaine, eh ben, il va aussi voir Jérémie. Les prophètes couraient s'abreuver à cette source, et David disait, mon âme a soif du Dieu vivant, pour qu'il puisse étancher sa soif avec la richesse de la sagesse de Dieu. Origène, purifie-toi aussi ton esprit, et purifie ton esprit pour qu'un jour tu boives à tes sources. Donc on va devenir un puits. Et puise l'eau vive à tes puits. Car tu as reçu en toi la parole de Dieu, et si tu as reçu de Jésus l'eau vive, allusion à la Samaritaine, si tu l'as reçue avec foi, elle deviendra en toi source d'eau jaillissante pour la vie éternelle. Or, qu'est-ce que disait le Midrash bien avant les pères, Ambroise, 4e siècle, Origène, 3e siècle, Philon d'Alexandrie, contemporain de Jésus, à peu près. La tradition du Midrash va nous montrer quelque chose d'encore un plus fort, c'est que non seulement la Bible nous a dit que Dieu, c'est l'eau, la Torah, c'est l'eau, Et dans Genèse Rabba, nous avons, à propos de cet épisode de Jacob, c'est du puits qu'ils abreuvaient, car ils y puisaient l'Esprit Saint. Et la pierre était grande, et la joie du puisage. Et pourquoi l'enceinte du puisage s'appelle-t-elle ainsi? Parce qu'on y puisait l'Esprit Saint. C'est pas moi qui invente, Rabbi Hoshaya. Et ils basculaient la pierre, sous-entendu, elle a jailli, et ils entendaient la Torah. Et c'est de là qu'ils entendaient la Torah, et ils basculaient la pierre, et ils entendirent de là les 10 paroles, et hop, on le retourne à Moïse. Et la Mechilta, 3e siècle, un midrash très important du 3e siècle. Pourquoi le peuple a-t-il dû passer 40 ans dans le désert? Alors on peut préciser tout de suite, le désert, c'est le lieu de la soif par excellence. Celui qu'il traverse sans eau va mourir. Et deuxièmement, le désert se dit Midbar, Mdavar, lieu de la parole. Donc vous voyez tout de suite déjà le lien. Lieu de la parole, c'est-à-dire de la Torah, c'est de la parole divine, c'est pas n'importe quelle parole, hein, bien évidemment. Le Saint béni soit-il dit, si je fais entrer Israël, donc pourquoi 40 ans? Si je fais entrer Israël dans le pays dès maintenant, aussitôt chacun va s'emparer de son champ ou de sa vigne et négliger la Torah. Mais voici que je vais les faire tourner dans le désert pendant 40 ans, tandis qu'ils mangent la manne et boivent l'eau du puits, la Torah pénètre dans leur corps. Donc, la manne tombe du ciel, quand ils sont au désert. L'eau du puits, c'est comme une Torah dans le corps des croyants, c'est-à-dire que l'Esprit de Dieu ne quittera plus leur corps, et par conséquent, toute leur personne, tout leur être. Donc, si dès les premiers pères de l'Église, ils ont fait le lien entre ce verset de la péricope de la Samaritaine, « L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau vive, jaillissant en vie éternelle. » Nous avons un peu plus loin, au chapitre 7, versets 37, 38, 39, « Le dernier jour de la fête, le grand jour. » Et il s'agit de Simchat Torah. Enfin, ça doit être au Hoshana Rabba. Donc, la fête de Sukkot, le dernier jour. Parce que Simchat Torah n'était pas encore, à l'époque, en vigueur de cette manière telle qu'on l'a aujourd'hui. Donc, dernier jour de la fête, le septième jour, avant de conclure le huitième jour de Sukkot. Il s'écrit, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, celui qui croit en moi, comme dit l'Écriture, de son sein couleront des fleuves d'eau vive. Il dit cela de l'Esprit que devait recevoir ceux qui croiraient en lui, car il n'y avait pas encore d'Esprit, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. » Conclusion. On va essayer de rassembler tous les éléments. Les récits autour du puits sont mis en lumière comme des récits types d'éminents personnages qui rencontrent leur épouse au bord du puits. Isaac épouse Rebecca, Jacob, Rachel et Moïse Tsipora. La péricope de la rencontre entre Jésus et la Samaritaine serait pour nous chrétiens le dernier récit type de ce cycle de rencontres entre un homme et une femme autour du puits. Et si nous lisons attentivement cette Samaritaine, il y a bien des éléments différents de ce qu'on a vu avant, mais aussi des éléments qui sont présents dans les récits de la Torah. Il y a un puits, il y a une rencontre entre un homme et une femme, il y a une question de mariage. D'ailleurs, cette question de mariage fait basculer tout le récit, hein, comme on a expliqué. Il y a la question de la femme, mais tu n'as rien pour puiser. Mais il n'y avait pas besoin, puisque l'eau a jailli. Montre qu'elle s'attend, cette femme, peut-être, à ce que Jésus soit comme ce Jacob devant laquelle l'eau avait jailli. Et que Jésus propose ou rappelle le jaillissement de l'eau qui s'était passé devant Jacob. Tout en évoquant très clairement la sagesse, l'eau comme une sagesse, l'eau comme une eau divine, et qui rappelle qu'on puisait à l'Esprit Saint. On puisait l'Esprit Saint. Et lors de la fête des tentes, on disait, enfin, le Midrash dit, il n'y a pas de plus grande joie que cette libation d'eau. Celui qui n'a pas vu cette joie ne connaît pas la joie en Israël. Il n'y a pas de plus grande joie. Et donc, le psalmiste aussi, à travers David, va dire, et le croyant qui vient chercher auprès de Dieu l'eau jaillissante. Et Jésus nous dit que ce croyant qui aura puisé à la source divine pourra la répandre de son sein comme des fleuves d'eau vive, c'est-à-dire comme l'Esprit Saint. Merci.